Du coup, le premier rendez-vous chez la neuropsy, c'est te dire à quel point c'est que je me suis dit, j'espère que ça soit ça, parce que du coup, je me suis dit, si c'est ça, je peux trouver des solutions. Mais si ça l'est pas, en gros, je suis désolée de le dire comme ça, mais putain, qu'est-ce que c'est, quoi? Parce que je pense que j'étais tellement tout le temps calme.
Ah ben non, c'est la goutte d'eau.
Voilà, c'est ça, et j'emmagasinais, et toi, tu me disais juste un peu pas bonjour, et puis alors là, ça partait, et...
Salut, c'est Antoine, le créateur du podcast Chacun son TDAH, l'émission où on parle du trouble de l'attention à travers des formats courts et des témoignages d'invités qui nous parlent de la manière dont ils le perçoivent et vivent avec. Ça fait un moment qu'une interview n'était pas sortie et du coup j'espère que celle-là vous plaira. Vous commencez à connaître le projet, mais pour la forme, je le répète quand même, n'oubliez pas que mon invité et moi-même ne sommes pas des spécialistes de la santé et donc nos propos ne remplacent en rien celui d'un professionnel. Avant de vous laisser profiter de cet épisode, je voulais vous remercier pour votre soutien et votre écoute. Votre aide a été extrêmement importante pour soutenir le projet. Du coup, j'en profite pour vous annoncer que sur les conseils d'une auditrice, j'ai décidé d'ouvrir une page Tipeee Chacun son TDAH. Ainsi, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez faire un don du montant que vous souhaitez pour soutenir financièrement le projet. Le lien vers la page est dans la description. Ça restera un podcast gratuit. Et si vous préférez, vous pouvez toujours laisser une note sur Apple Podcast, écrire un commentaire ou juste parler du projet autour de vous. Ayant reçu beaucoup de questions et des demandes d'accompagnement sur des points précis liés au TDAH, je commence à réfléchir à mettre en place un service d'accompagnement sur ce sujet. Donc si vous êtes intéressé ou que vous ayez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à chacunsontdah@gmail.com. Sur ce, bon épisode! Aujourd'hui, je reçois Inès et je dois dire que ça fait plaisir d'accueillir une femme dans l'émission. C'était pas arrivé depuis Arlette, ça remonte. Elle a 38 ans, maman d'une petite fille de 4 ans. Et fait insolite, elle a pris conscience qu'elle était sûrement TDAH grâce au podcast. Et du coup, elle a été diagnostiquée dans la foulée l'année dernière. Elle est la preuve qu'on peut et qu'on doit surmonter ses difficultés puisqu'elle a créé son propre organisme de formation linguistique alors qu'elle est elle-même dyslexique et dysorthographique. Elle va nous parler de comment elle a fait, de certaines de ses 10 000 astuces qu'elle a mis en place pour essayer de tenir le cap. Salut Inès, comment vas-tu ?
Salut, ça va. Et toi, comment vas-tu ?
Ça va. J'ai pas fait d'erreur dans la présentation ?
Non, pas du tout.
Bon ben, cool, c'est déjà ça. Et ouais, comme je disais, c'est vrai que ça fait un moment, en fait, le hasard a fait que j'ai eu beaucoup plus de candidatures d'hommes qui s'est présenté à moi. Et du coup, quand j'ai eu ta candidature, quand j'ai reçu ton mail, j'étais hyper content d'avoir un profil féminin pour nous parler un peu. C'est toujours d'autres problématiques. Et du coup, juste pour faire un petit peu la présentation aux gens, on va bien sûr parler de ton parcours, parce que comme d'habitude, plein d'autres invités, t'as un parcours atypique sur la détection de ton TDAH, mais aussi sur ta vie, sur ton enfance, les voyages. Ça m'a vraiment intéressé. Et puis, tu voulais accentuer l'épisode, si je me souviens bien, sur la perception du TDAH par l'opinion publique et la manière dont il est pris en charge par le corps médical, si je ne m'abuse.
Oui, c'est tout à fait ça. Exactement. En fait, c'est plus l'aspect et la méconnaissance de la société par rapport au TDAH. Je trouve ça intéressant.
Et du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, j'ai un peu fait ton profil, mais on va reprendre les choses depuis le début. Toi, déjà, tu as la particularité de ne pas être né sur le territoire français, exactement, t'es né en Martinique, si je ne dis pas de bêtises.
Exactement. Alors, je suis né, mais en métropole. Je suis pas né en métropole, pardon. Je suis né à la Martinique, de père français et de mère vénézuélienne.
C'est déjà, ouais, ça te pose le, ça te pose le, comment dire, le profil du personne, parce que c'est rare, et a fortiori en plus de ne pas être né sur un hexagone. T'es resté combien de temps en Martinique?
Alors, je suis née à la Martinique, mais ma mère, elle était diplomate et elle était mutée à Antigua et Barbuda, qui est une île pas loin de la Martinique, mais une île britannique, de colonie britannique. Je ne sais pas si tu connais.
Je connais de nom. Alors moi, je connais bien la Martinique. Je suis allé deux fois déjà, une île que j'adore. Chalut, si jamais il y a des Martiniquais qui nous écoutent. Et j'ai jamais eu l'occasion de faire les îles à côté, que ce soit Barbade, Guadeloupe et tout, parce que même si c'est pas loin, entre guillemets, c'est quand même compliqué d'y aller, quoi.
Oui, et tu t'es concentré peut-être sur la Martinique parce que c'était l'occasion de ton voyage.
C'est ça, exactement. Mais c'est, non, c'est un coin qui est jeune. T'as encore des attaches là-bas ou
alors,
pas du tout?
Pas du tout, parce que je souhaite y retourner. Je suis née à Schœlcher et je sais pas si t'as déjà visité, du coup.
Ouais, j'ai des amis qui vivaient à Schœlcher, ouais.
Ah d'accord. Donc, effectivement, je suis née là-bas, mais après, ma mère, elle était vraiment... on vivait à Antigua et Barbuda, donc la première année de ma vie, je l'ai surtout passée à Antigua et Barbuda, mais je suis née à la Martinique. C'était plus facile pour ma mère au niveau de la naissance que je sois directement née à la Martinique. C'est pour ça que je suis martiniquaise, on va dire. Enfin, je suis française, mais je veux dire, je suis née à la Martinique, même si on ne vivait pas à la Martinique.
Et alors, Antigua et Barbuda, t'as dit, tiens, c'est combien de temps?
Antigua, ma mère, elle est restée un an. Et après, bon, c'est particulier, c'est que les diplomates sont mutés en général entre 3 et 4 ans dans un pays. Elle y est restée 2 ans, si je ne me trompe pas, avec mon père. Et malheureusement, mon père a eu un grave accident de voiture. Et du coup, ils ont demandé à ce qu'il soit expatrié en France. C'est pour ça qu'on est reparti en France quand j'étais petite. Sinon, elle serait restée plus longtemps.
Ok. Et après, du coup, ta famille se réinstalle en France. Dans quel coin de la France?
En Seine-et-Marne, parce que la famille de mon père était en Seine-et-Marne. Ma mère, en fait, elle s'est juste rapprochée de la famille paternelle de mon père. Étant donné que mon père était dans le coma, c'était plus facile. Et ma mère était enceinte de ma sœur. Donc, c'était plus facile pour ma mère, étant donné qu'elle n'a aucune famille en France, d'avoir une attache française avec une famille. Donc, elle s'est rapprochée de la famille de mon père.
Ouais. D'accord. Et du coup, tu restes en France à cette occasion combien de temps?
Oui, après, là, c'est vraiment... je suis restée jusqu'à mes 4 ans. Et après, on est parti. Ma mère, elle a été mutée en Finlande.
Ok. Ah oui, du coup, t'as pas... Tu t'es même pas posé... Enfin, l'enfance a toujours été quelque chose où du fait du travail de ta mère, t'étais amené à bouger, effectivement, après plusieurs années, quoi qu'il arrive.
Tout à fait. Mais en fait, c'est pas... L'avantage de ce travail, c'est que c'est souvent des missions longues. Donc, tu es en déplacement pendant 3-4 ans. Donc, ça reste quand même... c'est pas tous les 6 mois où t'es muté. Mais du coup, effectivement, on n'avait pas d'adresse fixe. Je me souviens, un petit détail, mais tu sais, de ne pas marquer sur mon cahier à la rentrée d'adresse, parce que je ne savais pas si à la fin de l'année, souvent, si je pouvais rester au même endroit. Parce que même parfois dans le pays, même si on était toujours dans la capitale des pays où ma mère était mutée, parfois on déménageait. Ma mère, elle trouvait un autre appartement et donc on changeait. Donc c'est vrai que moi, les déménagements, c'était quelque chose d'assez courant.
Ouais, mais je connais. Moi, je me souviens sur ça. Je faisais, alors pas pareil que toi, mais à un moment donné, ma famille était entre deux apparts. Et je me demandais, et je me souviens, enfin, le fait que tu t'en parles, je viens de me souvenir de ça, que j'avais demandé ce que je devais mettre sur mon carnet de correspondance. Et un prof avait fait une blague devant tout le monde qui m'avait traumatisé. Et il dit, t'as qu'à mettre SDF. Et ça m'avait pas fait rire. C'était en mode, mais ta gueule, en fait. C'est pas drôle. Enfin, juste, je déménage, quoi. Ah,
c'est extrêmement con, surtout, pardon,
tu viens de réveiller un vieux trauma, en fait.
Mais...
Non, je rigole.
Non, mais je comprends, parce qu'en fait, tu vois, c'est des détails, comme tu l'as vécu, tu comprends ce détail que, que moi, je n'ai pas... Pas comme toi, du coup, tu sais, à un moment, tu ne sais pas trop quoi mettre. Ou quand on te dit, bah oui, mais toi, tu es en plein changement. Donc, pour les autres, c'est un petit détail. Mais toi, c'est quand même quelque chose qui à cet instant, est assez impactant.
Ouais, mais en plus, quand tu es jeune, c'est vrai que c'est des moments qui sont pas forcément faciles à vivre. Toi, ça a eu... tu l'as perçu comment quand, si t'arrives à te souvenir, quand t'étais plus jeune, ça a eu un impact en fait sur ton développement, le fait de jamais rester plus de 5 ans au même endroit ou au final pas tant que ça? C'était plutôt une bonne chose.
Ça dépend. Je me souviens que petite, quand on est parti en Finlande, on était petite et je pense qu'on était chanceuse, ma sœur et moi, parce qu'on n'a vraiment que 15 mois d'écart. Donc, on était chanceuses toutes les deux parce qu'on est parti en Finlande. Donc, Finlande, il neige, t'as la Laponie à côté. Ma mère nous emmenait plusieurs fois, elle nous a emmenés en Laponie, tu sais, le village du Père Noël et tout ça. Donc, le côté un peu rêver des petits et à cet âge-là, c'est top. Donc, là, pour le coup, tu sais, on a fait le traîneau 4 fois de suite. Enfin, je veux dire, 4 années de suite. On a fait le voyage en traîneau. On a vu le Père Noël. Donc, il y avait le côté assez sympa de l'âge et du lieu parce que c'est assez. J'ai un très bon souvenir de la Finlande. Donc, c'était sympa. Après, je pense que ça dépend parce que tu as des moments où tu te dis quand tu es jeune, bon, bah, de toute façon, si tu sais, tu as un moment où tu n'es pas très bien dans ta peau, comme tout enfant, tu sais, à tout moment de ton évolution, tu as des moments où tu es un petit peu moins bien dans ta peau. Bah, là, je me dis, ah, il est temps qu'on parte pour avoir un truc de nouveau. Et parfois, on était bien et je me dis, ah, là, j'ai pas envie de partir.
Ouais. Après, ça, quand tu le dis comme ça, avec le vécu du TDAH, moi je me dis que ça doit être aussi une. Je sais pas si tu l'as perçu du tout comme ça à l'époque ou même maintenant, mais ça doit être une chance aussi quand on a tendance à s'ennuyer rapidement. Le fait de changer d'endroit, de voir de nouvelles choses, ça doit être hyper, hyper épanouissant, j'imagine.
Effectivement. Bah là, en fait, je l'avais jamais verbalisé, mais maintenant que tu le dis, contrairement à. Alors après, ça dépend quand tu habites dans une capitale ou quand tu habites dans une grande ville. Souvent, tu sais, il y a des nouveaux qui arrivent dans l'école, mais quand tu es dans des villages ou des villes un peu plus petites, tu as souvent les mêmes personnes dans l'école, les mêmes têtes, on va dire. Moi, j'avais pas ça. C'est vrai que moi, j'étais. Un poisson parmi d'autres poissons. En fait, on était tous dans l'école française. J'ai toujours été que dans des écoles françaises à l'étranger. Et du coup, bah, j'étais comme d'autres, des enfants de fils de diplomates, d'expats ou de militaires. Donc, on était souvent mutés. Donc, on avait tous un parcours assez. Souvent, on voyageait dans plusieurs endroits, on avait vécu dans plusieurs endroits. Donc, je me souviens que quand il y avait quelqu'un de nouveau, la première chose qu'on lui disait, c'était tu viens d'où? Mais vraiment, t'as fait quoi, toi, comme pays? Et quand on me dit souvent « Ah, le monde est petit », je le confirme dans le sens où moi, j'avais une personne, une jeune fille qui était dans ma classe en Finlande et quasiment, on va dire, 6 ou 8 ans après, bah, ses parents ont été mutés en Roumanie quand moi, j'y vivais aussi. Donc, on s'est retrouvés dans la même école, on va dire oui, 6 ou 8 ans plus tard.
Ouais, j'allais te le dire, c'est qu'après, t'as fait la Roumanie où t'es resté presque 4 ans
Oui, c'est
de
ça,
mémoire.
tout à fait.
Et en plus, du coup, même si, alors effectivement, pour connaître un peu des gens et en ce profil, t'as tendance à rester entre enfant de diplomate ou de militaire, mais t'as quand même tout l'aspect quand tu vis en Finlande, tu côtoies aussi une autre culture en fait, et ça doit être super enrichissant sur le long terme en fait. T'es déjà habitué très jeune à aller au-devant d'une autre culture, à une autre manière de penser. Et entre la Martinique et la Finlande, c'est un peu le grand écart, quoi.
Bah exactement. En plus, alors sachant qu'en plus j'ai la double nationalité française et vénézuélienne, et il y a déjà aussi un écart. Et donc en espagnol, ma sœur elle a tendance à souvent dire viajar es vivir, voyager c'est vivre. Et c'est parce que ça t'ouvre un peu à une autre culture, à une autre vision des choses. Je trouve ça intéressant en Finlande pour habituer les enfants au froid, parce que tu as des températures qui sont quand même assez extrêmes.
On les balance dans la neige à 2 ans.
Non, en fait, on les couvre bien, tu sais, ils sont bien emmitouflés et on les fait dormir dans un couffin sur... Bah, protégés de la pluie, hein, y a pas de problème là-dessus, mais on les met dehors, donc dans le balcon, dans la terrasse, ou des choses comme ça.
Et seuls les plus forts survivent.
T'imagines le taux. Non mais ça va. Ouais,
c'est comme ça qu'on a fait des Vikings. Hein.
C'est 100%
historique et scientifique. Non, je savais pas. Mais ouais, là-bas, j'imagine que t'es obligé de t'endurcir au froid. Moi, j'y suis allé qu'une fois en Finlande, à Helsinki.
Ah oui.
Et c'était ouais, je l'ai fait une fois. Je me souviens plus la période. Mais c'était pas au cœur de l'hiver, ça devait être octobre, novembre, et déjà là, c'était dur au niveau du temps, quoi.
Ah oui, effectivement. Bah après, un petit détail qui pourrait te faire sourire peut-être, c'est que quand je suis arrivée en France, mais bien plus tard, parce que je venais en France pendant les grandes vacances chez mes grands-parents, j'avais entendu des moqueries au sujet des cagoules. Tu vois, oui, mais moi, quand ouais. J'avais des cagoules, le truc de ma mère, elle mettait des cagoules petits. Mais quand t'es en Finlande, tout le monde met des cagoules. Parce que tu sais, en fait, pour te dire, ils te font sortir quand c'est l'hiver, pour la récré, ils préparent les enfants. Si t'as 20 minutes de récré, bah, tu sors 5 minutes avant de la classe pour pouvoir t'habiller. Parce qu'on c'était comme des combis de ski, en fait. On avait vraiment comme des moon boots, t'avais vraiment une combi de ski, des gros gants.
T'inquiète, moi je vais en Allemagne, je les vois aussi. Hein. C'est la même culture pour ça.
Donc forcément, et puis après, moi ce qui était génial, le côté génial, c'est que ma mère, elle venait nous chercher en luge. Donc elle tirait la luge, et comme il y avait une petite montée au niveau de l'école, et ben elle nous ramenait en luge à l'école. Et ça, c'est cool, tu vois, c'est des côtés assez cool que je sais pas si j'aurais pu vivre en France, selon l'endroit où tu es.
Ouais, non, sûrement pas, effectivement, ça, t'as une autre approche du truc. Non, mais c'est vrai que c'est cool d'avoir expérimenté ça. Et puis, je pense que t'as vraiment fait le grand écart en termes de culture. Et puis, alors, la Roumanie, alors, je parlerai pas parce que je connais pas du tout, je suis jamais allé, malheureusement, j'aimerais bien. T'en as des bons souvenirs en quelques mots de la Roumanie?
Oui.
T'en as gardé quoi?
Non, on y est allé quand même plusieurs années après Ceausescu, donc quand il a été assassiné, enfin fusillé, c'était le dictateur roumain, et c'était depuis plusieurs années en reconstruction. Et déjà moi, entre l'époque où j'y ai vécu et maintenant, il y a eu vraiment un bon en avant au niveau du progrès qu'ils ont eu, mais c'était intéressant. C'était pas pareil, mais c'était intéressant. Alors moi, j'avais énormément d'amis qui étaient à l'école en Roumanie, mais française, et qui étaient roumains, donc moi j'ai encore beaucoup d'amis roumains. J'ai beaucoup aimé la Roumanie, c'était autre chose, mais j'y ai vécu pendant l'adolescence, donc j'ai eu l'opportunité, parce que c'était un pays qui était assez safe, t'étais en sécurité en fait, donc on pouvait sortir, on était adolescente, pré-adolescente, on pouvait sortir sans que ce soit un problème, on avait la liberté que si j'avais été adolescente par exemple au Venezuela, je n'aurais pas pu avoir de sortir, c'était complètement impossible, ouais. Étant une femme, c'est dangereux, en plus je suis vraiment très blanche, j'ai plus un côté français, que je ressemble pas forcément à une sud-américaine, donc tu vois, c'est un côté où c'est un peu plus dangereux au Venezuela, parce que je fais très étrangère, souvent quand j'arrive au Venezuela, les gens ils me parlaient en anglais, pour te dire.
Mais donc, on en avait parlé en off, c'est vrai que quand tu voyages beaucoup aussi, ça te fait prendre conscience de le luxe qu'est la sécurité, surtout quand t'es une femme seule, et ça te permet de remettre en perspective en fait plein de choses sur ton pays. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec la citation de ta sœur sur en disant voyager c'est vivre, parce que moi j'ai dû quitter la France pour me déconstruire sur plein de trucs sur la France. Tu vois.
Oui.
Et quand t'es dedans, en fait, tu les vois pas. Tu vois pas, par exemple, la sécurité, voilà.
Genre, oui, exact.
C'est clairement pas le pire pays, hein, mais il y a des trucs qui se passent en France qui n'ont pas lieu d'être dans des pays voisins, quoi.
Exactement. Bah, comme on le disait, en fait, c'est que t'as un avis qui est un peu plus mesuré sur tout, mais plus tu as une conscience autre. Parce que je pense que quand tu n'as pas vu autre chose, tu juges ou tu le valorises. Alors que nous, en fait, je pense qu'on est plus dans le sens où on se rend compte des différences et ce qui est bien et qui est à effectivement prendre en considération les choses antiques quand même. Quoi. C'est pas le tiers-monde et pourtant, on en est là et on est en
c'est
France.
C'est ça. Et puis, comment je pourrais dire ça ? Avec ta nouvelle vision, en fait, tu admets moins, en tout cas moi, pour moi, c'est mon cas, j'admets moins certains discours type de non remise en question, en fait, de certains trucs. Parce que tu te dis, dans le pays voisin, on a à peu près le même niveau de vie, la même culture, et il n'y a pas autant d'agressions sur ces points-là. Donc, en fait, tu vois, c'est pas systémique. En fait, ça devrait, il n'y a rien qui justifie certains comportements.
Exactement. Effectivement, c'est que du coup, tu n'as plus l'excuse parce que toi aussi, quand tu n'es que dans un pays, tu n'as pas forcément, parce que voyager après... sans émettre un jugement sur les gens qui voyagent, ça dépend comment tu voyages. Les personnes qui aiment voyager en club de vacances dans un pays, rester que entre touristes, c'est leur choix. Mais forcément, ça ne te donne pas non plus une vision réelle du pays. Tu vois, t'es pas en immersion, contrairement à toi, où t'es vraiment en immersion.
C'est un truc que je déteste, personnellement. Tu ne voyages... jamais aussi bien que quand t'essayes, je mets des grosses guillemets parce que c'est très très dur, mais quand t'essayes de te rapprocher en fait de comment vivent les gens là-bas et de parler avec eux et de comprendre. Quand tu restes dans un hôtel club, tu vois pas le pays, tu vois pas les gens, enfin les vraies personnes qui composent le pays dans tout ce qu'il a de multiculturel. Donc ouais, t'as rien vu, t'as rien compris du pays, et ça se voit beaucoup en Martinique, hein. Tu peux aller en Martinique, rester 2 semaines et ne rien avoir vu, ne rien avoir compris de la culture martiniquaise et dom-tom, quoi.
Ah oui, je pense qu'effectivement, et puis il faut aussi avoir l'envie de s'y intéresser et, tu sais, d'accepter, comme tu disais, hein, déjà de déconstruire ton opinion sur quelque chose et qu'effectivement, ta vision n'est pas forcément ou la bonne ou tout simplement elle est erronée parce que toi, tu t'es fait un préjugé sur quelque chose et c'est pas forcément le cas.
Ouais, c'est ça. Et je sais pas si c'est pour toi, c'est pareil pour toi, pour continuer à parler un peu des voyages. C'est pour avoir... pas mal voyagé, essayer d'avoir pas mal voyagé, j'ai remarqué que au fil des voyages et à chaque fois que je rentrais, je voyais les choses, différemment sur certains aspects, et chaque voyage m'enrichissait d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, moi, je prenais le meilleur de chaque culture, enfin ce que je considérais comme le meilleur, les meilleures coutumes, les meilleures habitudes de chaque pays, de chaque culture. Est-ce que ça te fait ça aussi?
Je me souviens, du coup, je vais faire une petite, je vais m'égarer de petites secondes, mais moi, comme à chaque fois qu'on partait dans un pays, tu sais, tu dois retourner dans ton pays où tu es, le diplomate retourne dans son pays où il exerce et il doit être quelques années dans le pays. Donc, en fait, nous, quand on est allé en Finlande, ma mère, après, elle est repartie au Venezuela, donc on est parti au Venezuela et on était à l'école française au Venezuela. Et du coup, tu as la culture qui est vraiment différente quand je le dis, parce que même si on a toujours l'impression que c'est... Il y a des choses qui sont assez similaires, ça ne l'est pas forcément. Et quand on revenait, nous, on ne s'en rendait pas compte, petite, tu vois, avec ma sœur, des différences. En fait, on s'adaptait. Parce que quand je pense que tous les petits sont vraiment... s'adaptent. Même une personne qui n'a pas voyagé, un enfant va plus facilement s'adapter qu'un adulte. Et donc, c'était, tu vois, c'est, en fait, c'est comme si on disait, c'est normal, tout simplement. Et quelqu'un, on va lui dire, c'est pas normal. Et par rapport à ce que tu disais, du coup, quand tu reviens, ça ne me le faisait pas petite, ça me l'a fait quand j'ai commencé à être plutôt vers l'âge de 16 ans. Parce que moi, je faisais tous les ans, on revenait en France pour les grandes vacances chez mes grands-parents. Donc, on avait ce petit pied-à-terre chez mes grands-parents en France, en Seine-et-Marne. Et c'est à ce moment-là où ce que tu dis, je le ressentais, c'est quand je venais en France, j'avais des petits coups de blues sur certaines choses qui me manquaient d'autres pays. Mais aussi également, quand je repartais dans le pays où j'habitais, j'avais le petit coup de blues de la France. Donc, tu vois, t'essaies aussi de garder un petit peu. Il y a des choses, tu sais, il y a pas ce mot-là, enfin, à moins que le mal de la homesick, tu vois.
Ouais, non, alors je vois ce que tu veux dire sur ça, effectivement. Moi, j'ai pas connaissance d'un terme pour désigner une sensation où tu regrettes là où t'étais en vacances, mais ouais, t'as raison, ça devrait exister.
C'est vraiment qui représente cette petite nostalgie de ce que tu viens de vivre, mais pas juste « Ah, c'est les vacances qui me manquent et de rien faire », mais plutôt de cette culture, de ce pays, de l'ambiance, tout ça.
Ouais, non mais je sais bien. Moi, le seul truc qui peut dans cette idée-là en fait auquel je pensais, c'est il y a dans les mots qui n'existent pas et qui devraient exister, la langue allemande en a plein, et à chaque fois il y en a un qui revient souvent. C'est, ils appellent ça le Weltschmerz. Mmh. Et c'est une espèce de sensation, une émotion quand tu prends conscience de la réalité du monde en fait, et que ça t'attriste en fait. Il n'y a pas d'autre mot, que ce soit en français, en anglais, pour décrire cette sensation un peu pessimiste, défaitiste quand tu vois l'état du monde.
Quand tu en gros, c'est comme si c'était un éveil qui conscientise ce qui est la réalité.
C'est ça.
Ah ouais, c'est ça. Ça ouais. Mais en fait, on le voit beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je parle souvent avec ma mère et ma sœur, parce que forcément, nous, on est bilingue de naissance espagnole. Donc, on parle avec ma mère qu'en espagnol. Et il y a des mots dans une phrase où, effectivement, quand tu es extérieur, ça peut paraître bizarre, parce que nous, on va parler en espagnol, en français et en anglais pour une seule phrase, tu vois, parce que parfois, il y a des mots qui n'existent pas, comme tu le disais là, ton exemple. Moi, je vais t'en donner un. C'est en espagnol, on dit empalagar. Et c'est quand tu arrives...
Empanada.
Non.
J'adore ça.
Pas les empanadas, mais empalagar. C'est quand ta bouche, tu sais, quand tu as mangé trop de sucre et que tu es saturé de sucre et que tu as l'impression que ta bouche, c'est un pot de miel et que là, ça t'écœure. Tu vois, mais il y a un mot là, tu vois, je t'ai expliqué les faits, mais il a fallu que je te fasse toute une phrase pour te dire.
Non, mais je vois, moi ça m'arrive à mon niveau en allemand et en anglais, il y a des mots juste, je sais que tu as tendance à faire ça aussi en anglais, mais moi, tu vois, il y a des mots, clairement, moi, ils viendront pas en français. Hein.
Oui, bah c'est ça. Ou sinon, aussi des expressions. Donc après, ça te fait... Je ne sais pas si ça te le fait toi aussi, parce qu'en plus, toi, tu es à Berlin. C'est qu'après, tu ne sais même pas si elle est correcte dans la langue où tu l'emploies, parce que parfois, tu vas faire des traductions complètes. Un exemple, « make sense ». Ça fait sens.
Ça fait sens.
Voilà.
Non, mais ça, ouais.
Tu comprends ce que je veux dire? Et parfois, tu le dis en français, tu dis, mais attends, est-ce que c'est parce que je l'ai traduit? Est-ce que c'est réel? Là, c'est un exemple. Mais parfois, je me dis vraiment, attends, quand je vais beaucoup au Venezuela... Quand j'ai vécu au Venezuela et je suis revenue en France, bah sinon je faisais aussi des traductions. Et j'ai dit un jour à ma tante, tu peux me prêter ta... Je parlais de glacière, sauf que moi je l'ai dit en espagnol. Et je lui ai dit, tu peux me prêter ta cave? Parce qu'on dit una cava. Et elle me dit, okay. Ta cave? Qu'est-ce que tu veux faire avec ma cave? Et je lui ai dit, bah, pour l'emmener, pour le voyage. Et en fait, après, j'ai vu sa tête et je me suis dit, bon, je ne vais pas bien le dire. Mais tu vois, c'est ça aussi, c'est quand tu es habitué, donc tu vas faire des petites traductions et toi, tu te dis, ah, si, ça passe. Bah non, ça ne passe pas.
Ouais. Moi, ça m'arrive comme tout le monde. Et alors, quand on me le fait remarquer, quand on m'explique le truc, alors là, du coup, je deviens intransigeant sur l'utilisation de termes. Par exemple, en France, en français, le truc le plus connu, c'est l'utilisation du terme digital pour, en fait, dire numérique. Tout
d'accord,
le monde dit
oui.
Digital, alors qu'en fait, digital, c'est les doigts.
Oui.
Donc, pensez-y, à chaque fois que quelqu'un vous dit une communication digitale, ça veut dire une communication avec les doigts, littéralement. Ouais, et tout le monde le dit. Hein.
Oui, c'est
venu,
ça.
Donc, ouais, non, moi, je sais, je vois très bien, je vois très bien ce que tu veux dire, alors, sur le ça fait sens. Et puis, déjà qu'en France, on n'arrive même pas à se comprendre sur les expressions entre les différentes régions.
Exactement.
Tu vois, il y a les cartes françaises là où on te, pour une seule et même expression, on t'est un séchoir par exemple, un étendoir, un tankerville, on va pas le dire de la même manière. Donc ouais, non, c'est sûr que ça, je vois très bien ce que tu veux dire.
Bah, et après t'as la fameuse polémique qu'on va lancer sur ton podcast.
Non, non,
sur les deux trucs, tu sais de quoi je parle.
Non, non. Je tiens, je voudrais bien que tu ne mets pas mon podcast à feu à sang. Bon, vas-y, je te laisse. Fais ton office.
C'était juste le côté les chocolatines et le pain au chocolat. C'était plus pour ça, en fait. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Déjà en France, tu as des mots où il y a déjà des petites guerres là-dessus. Donc, c'était celui-là que tu avais envisagé.
Ouais, bien sûr. Moi, je suis même sur celui-là, je suis partagé. Hein. J'ai toujours dit, moi, je viens d'Auvergne et c'est la limite. Genre, juste en dessous de nous, ils disent chocolatine. J'ai toujours dit, entendu à la boulangerie, si tu veux pain au chocolat, sauf que pour moi, à la maison, un pain au chocolat, c'était vraiment une baguette avec un morceau de Milka à l'intérieur, quoi. Donc, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, ça peut faire ce qu'on disait. Ça peut vite créer une guerre. Parfois, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas parler de certaines d'autres choses, parce que là, ça peut vraiment vite dégénérer sur des choses qui sont.
J'ai entendu des débats politiques qui étaient plus sereins que les débats sur chocolatine et pain au chocolat.
Là, on l'a vraiment. Mais c'est comme un jour, j'ai dit à un ami à moi, tiens, une question, toi, tu penses quoi de l'ananas sur la pizza? Et je me souviens, il m'a dit, écoute, parfois je me dis, dans certaines discussions, il vaut peut-être plus que je me positionne sur la Palestine ou Israël plutôt que la pizza avec l'ananas, quoi, parce que ça peut vite faire la guerre.
Ah ouais? C'est vrai, je savais même pas qu'il y avait un débat sur ça.
Moi aussi, je l'ai appris il y a peut-être 2-3 ans, et du coup, ça m'avait tellement fait rire que.
Mais c'est les gens qui mettent de l'ananas sur une pizza, on est d'accord, ils sont ultra minoritaires.
Moi, j'en mets.
Ok. Eh ben, c'est tu tout vois, cet épisode. Ça m'a fait plaisir de te recevoir.
Tu vois, je te dis, on aurait dû parler de l'Israël et de la Palestine.
C'est vrai. Bien vu. Je pensais avoir tout vu et j'arrivais encore à être surpris par mes invités.
Je pense qu'après, c'est l'enrichissement de partager avec des gens qui ont des expériences. Bah, quand tu le disais, on en parlait en off sur chacun son TDAH. Mais en plus de chacun son TDAH, chacun sa personnalité, chacun son parcours de vie. Et du coup, effectivement, je pense que c'est... du coup, on en arrive peut-être aux extrêmes, comme mettre de l'ananas sur les pizzas, mais pas tout le temps, quoi.
Ouais. J'espère que tu reconsidéreras tes choix de vie. J'espère que ça servira à ça.
J'espère que là, tu vas vraiment conscientiser ce choix.
Lâchez-vous dans les commentaires.
Ah, quelle horreur.
Je reviens un petit peu du coup à ton parcours. On parlait des voyages, on t'avait laissé en Roumanie et le dernier voyage que t'as fait avant de revenir t'établir en France, c'était du coup au Venezuela, c'est bien ça?
Exactement. On est allé. Je suis du coup revenue au Venezuela parce que pour moi à cette époque-là, la France n'était pas c'était les vacances. Moi, j'associais vraiment la France à mon lieu des grandes vacances, chez mes grands-parents, parce que nous, ce qu'on allait tout le temps, notre point de chute, ça restait toujours Caracas, au Venezuela, où ma mère était de retour après chaque mutation. Elle devait retourner vivre là-bas. Que la France, comme je te disais, je l'ai fait en fait de mes... Je vais te donner une approximation, mais on va dire de mes 15 mois à mes 3 ans. Je m'en souviens très, très peu de cette partie-là, ouais. Vraiment. Après, on a dû du coup partir au Venezuela, donc on retournait dans l'école et tout ça. Mais là, je l'ai fait, j'étais adolescente quand je suis repartie la dernière fois au Venezuela. Et ma sœur, elle est partie en France, donc on a été séparés. Ma sœur, elle est rentrée en France pour ses études chez mes grands-parents. Et moi, en allant au Venezuela, j'étais juste avec ma mère et j'ai vécu là-bas. On va dire, c'était entrecoupé parce qu'entre-temps, là-bas, j'ai voyagé encore. Je suis partie au Venezuela et on va dire qu'au bout d'un an, je suis partie refaire un voyage en Roumanie, voir mes amis et je suis partie en France. Et après, je suis retournée au Venezuela et après, je me suis réinstallée en France.
Ok. Et quand tu te réinstalles en France, t'as quel âge à peu près?
J'avais... Au bout de je ne sais plus combien de mois, je devenais majeure. Donc, on va dire que je suis arrivée à 17 ans, mais à la limite de mes 18 ans, peut-être 3 mois max avant mes 18 ans.
Et du coup, dans ton parcours familial, de voyage et scolaire, est-ce que tu as un moment où tu as établi, en fait, tu as vu les signes du TDAH, ou t'as très rapidement, quand tu étais enfant, tu as commencé à comprendre certaines choses. Ça s'est passé comment de ce côté-là pour toi?
Alors, moi, étonnamment, contrairement à ce que je t'entendais dire ou tes précédents invités, j'avais pas cette perception-là. Déjà, je connaissais pas ce terme-là, et je voyais que j'avais des difficultés, mais j'arrivais pas. Alors, des grosses difficultés. Hein, là, on va même pas le minimiser. Je t'ai dit, c'était chaotique, et quand je te l'ai dépeint, t'as bien constaté que j'exagérais pas. C'était chaotique, ma scolarité. Mais je pense que alors, en fait, c'est que j'ai tout eu comme tu as dit, étant dyslexique et dysorthographique. Mais on l'a diagnostiqué. Ma mère, après, elle m'a fait faire de l'orthophoniste, pardonne-moi.
Ouais.
Et du coup, en fait, ma mère, à chaque fois, elle essayait de faire le nécessaire. Mais le côté... moi, j'étais très calme comme enfant. Donc, j'étais diagnostiquée TDAH, et tu vois, l'enfant qui est dépeint comme Arlette, qui disait, elle, c'était un petit éclair, en gros, qui bougeait partout.
Ouais.
Moi, pas du tout. Moi, je pouvais... Ma mère, elle dirait que j'étais un enfant très... extrêmement calme. Je pouvais rester des heures dans ma chambre. Mais par contre, c'était tout le temps, ça fusait dans ma tête. Et ça a toujours été comme ça. Et moi, en fait, tu, la partie qui est cette ébullition de pensée dans ta tête... Bah, toi, comme tu le vis et que t'as jamais été autrement, bah, tu te dis que c'est normal. Je sais pas si toi, ouais, ça te l'a fait, mais je me suis jamais dit, ah tiens, c'est pas normal, quoi.
Moi, si, quand même, enfin, mais c'est compliqué. Si, moi, je voyais que je percevais les choses différemment de mon environnement.
Oui, la perception, mais par contre, l'ébullition de pensée, d'être constamment, tu sais, comme si t'étais jamais en pause, mais cérébrale, c'est ça ce que je disais plutôt. Toi, tu l'as remarqué, ça?
Bah, disons que je remarquais cette absence chez les autres, tu vois, que ça fusait moins, que que les autres percevaient moins de choses sur certains trucs, et que moi je recevais des informations que eux pas forcément. De ce que je comprends, de ce que tu me racontes, c'est que toi, t'as le côté trouble attentionnel, enfin le type de trouble attentionnel, vraiment sans l'aspect hyperactif moteur, et a priori pas l'aspect impulsif. Donc t'es vraiment dans la catégorie des personnes qui ont des problèmes attentionnels et tout ce qui s'ensuit.
Alors, pas forcément. Alors, effectivement, l'hyperactivité, on va dire intellectuelle. C'est comme ça que...
Oui, voilà.
Et impulsivité, si. Beaucoup. Ah, c'était ça, la voilà. Mais ouais. Petite... Alors, moi, effectivement, l'image construite sur l'enfant hyperactif qui court partout, qui bouge, qui tient pas en place, moi, c'était pas mon cas.
C'est pour ça qu'il y a souvent c'est souvent ces profils-là qui passaient au travers des diagnostics, ouais.
C'est ça, en fait. Et en plus, étant une fille, donc aussi
c'était plus rare, ouais, c'est plus rare.
Exactement. Donc c'est considéré comme plus rare juste parce que il s'était basé sur des critères purement masculins pendant un moment sur ce qui se passait, et enfin par rapport au diagnostic. Après aussi, par rapport à ce que tu disais, moi, je voyais que... Moi, je me sentais plutôt le côté... Je me sentais mise à l'écart, mais c'était par rapport aux facilités qu'avaient les gens à faire les choses. Donc, moi, comme je te disais, j'ai 15 mois d'écart avec ma sœur, donc c'est pas beaucoup. Souvent, les gens autour... Ma mère le faisait pas, mais les gens autour nous comparaient. Et moi, j'ai redoublé une classe à cause de mes problèmes à l'école. Du coup, comme j'étais dans des écoles où il n'y avait pas forcément beaucoup de classes. Tu sais, quand on était à l'étranger, ça dépendait en fait du flux d'arrivée des personnes. Donc, parfois, tu pouvais avoir 3 classes de 6e. Et après, selon les départs et les mutations des élèves, tu pouvais te retrouver qu'avec une seule 6e. Ou exemple, ou ainsi de suite, quoi. Donc, moi, je me suis retrouvée avec ma sœur, ma petite sœur, dans la même classe, parce qu'il n'y avait qu'une seule 6e à l'époque.
Ouais, mais ça je vois ce que tu veux dire. La comparaison, c'est C'est rarement une bonne idée hein, de comparer les enfants.
Déjà entre
parce
eux, oui.
Que, ouais, déjà, c'est. Ouais, il a pas redoublé. Oui, il a sauté une classe.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est
moment,
que du coup,
est-ce que,
ben...
ça vraiment, voilà, est-ce que ça a vraiment une importance, tu vois tu... C'est toi qui me disais ça. C'est on demande pas. On fait
un
pas
poisson.
Un test d'intelligence en demandant à un poisson de grimper à l'arbre.
Oui,
là,
tout à fait.
C'est
Einstein qui a dit ça. On peut pas
ouais.
Forcément, si tu. Il va pas bien le faire. Par contre, et pareil, si tu demandes à un singe de nager,
ah,
il va
peut-être
pas.
Le faire du tout, même.
Voilà,
quoi,
c'est ça. Non, mais exactement. Mais c'est que du coup, c'était vraiment. Moi, je trouvais. Alors, petite, je m'en rendais pas compte. Et on était beaucoup comparés. Je t'ai comparée forcément avec ma sœur parce qu'on était dans la même classe, on avait les mêmes choses. Donc, les notes n'allaient pas du tout comparer à elle. Donc, c'était moi plutôt. À ce moment-là, c'était plus mon estime de moi-même qui me disait oui, mais enfin, si elle y arrive, et tu vois, c'est pas. Elle vit la même chose que moi. Donc, je ne peux pas dire, ah, tu sais, c'est parce que toi, tu es tout le temps en mutation, tu as fait plein de
ouais.
nids ou quoi que ce soit. Donc, elle y arrivait, moi, je n'y arrivais pas. Donc, moi, je me disais vraiment, bah, je déconne, mais pas dans ce sens-là. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je me disais plutôt, j'ai un truc qui déconne, mais je ne peux pas savoir ce que c'est. Après, je le voyais aussi, c'est au niveau des professeurs. J'ai eu beaucoup de professeurs qui ont eu des propos extrêmes, on va dire, à mon égard, et des choses assez blessantes que, du coup, m'ont fait vraiment douter de mes capacités. Mais je pense...
Ça, c'est un truc, je te coupe une
bien
heure,
sûr.
Mais ça, c'est un truc, ça me fait penser que... Alors, c'est très délicat, je ne me permettrai pas de donner une seule vérité, une seule leçon, mais je pense, dis-moi si tu es d'accord, que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants de manière intelligente à remettre en question et en perspective les propos des adultes et a fortiori des profs, tu vois. Parce que quand, du coup, tu es un enfant... avec le biais d'autorité, tu considères comme parole divine tout ce que va te dire ton professeur, ton maître d'école. Et parfois, bah, ça décuple les effets dramatiques de certains propos. Je me souviens ce qu'avait dit à Romain, un précédent invité, un de ses professeurs. Enfin, c'était quelque chose comme t'es une erreur de la nature. Enfin,
oui,
t'imagines
voilà.
Avec le biais d'autorité. Ouais, voilà. C'est donc ça, c'est quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses. C'est très délicat, mais faut aussi partager ça avec les enfants. Que voilà, c'est pas parce que une personne a une figure d'autorité qu'elle a forcément raison.
Exactement. Alors, du moment où tu le fais dans le respect je pense que c'est bien d'expliquer aux enfants. Mais encore une fois, comme je te disais, dans le respect. Tu dois avoir une pensée qui peut... Tu peux avoir ton propre cheminement de pensée, tu peux remettre en question ce qu'on t'apprend. C'est pas forcément... c'est un point de vue, c'est aussi une manière dont les professeurs enseignent. Après, ça dépend si tu as des jeunes professeurs, des anciens. Donc, tu sais, les méthodes aussi, elles sont vraiment différentes entre les uns et les autres. Mais je trouve que c'est effectivement important de ne pas donner toute crédibilité au professeur de dire oui voilà c'est lui qui a dit ça, donc le professeur a dit ça, ça fait foi, c'est la parole divine.
Ouais, donc je suis
effectivement
d'accord.
C'est comme je te disais, moi j'ai eu quand j'ai fait du coup mes bilans et que la neuropsy m'a demandé tu sais, un peu tes notes pour savoir un peu ton parcours scolaire. Quand j'ai remis le nez dedans, et je pense que inconsciemment je ne voulais pas mettre le nez dedans parce que je savais que c'était catastrophique en fait. Mais je ne pensais pas que les propos étaient aussi forts. Et du coup, je suis peut-être contente de ne pas avoir remis le nez dedans entre-temps parce que peut-être que ça m'a un peu, tu vois, fragilisée dans...
Ouais. Ouais.
Parce que du coup, j'ai eu une prof, Camille, de français, en gros, déficience mentale. Parce que je faisais des fautes d'orthographe, parce que j'avais du mal, et j'avais du mal dans beaucoup de matières. Après, j'ai de la chance pour ça, c'est que moi, ma mère, elle m'a toujours énormément soutenue. Ma mère, elle nous a toujours. C'est une femme forte qui était autonome, qui avait un niveau de vie et qui nous a du coup élevés seuls, mais avec ses études et et sa situation et sa position qui faisait que, tu vois, c'était pas fragile. On n'avait pas l'image que certaines personnes peuvent avoir parfois, tu sais, de la difficulté financière ou tout ça. Donc, moi, j'avais l'image d'une femme forte avec beaucoup de caractère, mais qui argumentait les choses. Donc, ma mère m'a toujours dit, bon, ben voilà, ça, c'est son opinion. Elle ne donnait pas toujours raison, quand elle trouvait que c'était injustifié, elle le permettait pas. Tu vois, un peu comme on en a parlé en off aussi. Où,
ouais, bien sûr. Non, mais...
L'exemple que je t'ai donné, c'est que, alors, encore une fois, hein, je ne dis pas, je ne juge pas tous les professeurs, parce que j'ai eu des professeurs qui ont été cool avec moi. J'en ai eu beaucoup qui l'étaient moins.
Non, mais t'inquiète, tu peux y aller.
Voilà. Mais en fait, c'est juste, je pense que moi aussi, bon, j'ai 38 ans, donc forcément, je pense qu'ils n'étaient pas 39. Je t'ai dit 38 et je viens d'avoir 39 le 1er avril et je ne l'ai pas... Ouais, tu vois, comme quoi, donc ça... Mais je l'ai eu depuis le 1er avril, j'ai eu 39 ans. Et quand je t'ai fait le mail, j'en avais 38. Et du coup, bah, c'était déjà il y a quand même pas mal d'années. Et donc, je pense qu'en France, rappelle-toi aussi qu'il y a un retard par rapport au TDAH. Et du coup, je pense qu'ils n'étaient peut-être pas préparés et ils n'étaient pas tolérants, parce que moi, c'est une réunion parents-prof, bah, les parents ils vont chacun dans une classe et voir, en gros, tu fais le point avec tous les professeurs. Et quand le professeur elle a quand même dit à ma mère, bon bah Inès, que dire? Bon bah, faudrait qu'elle se trouve un mari riche. Enfin, ça c'est tu vois, c'est, je sais pas si tu te rends compte, quoi. Je pense que maintenant, aucun
c'est
prof...
la violence.
Voilà, c'est...
C'est la violence. Non, alors, si c'est, voilà, s'il fallait un exemple pour démontrer aux gens que non, c'était pas forcément mieux avant.
Ouais,
que, voilà,
exactement.
Voilà, on n'a pas le droit de dire ce genre de truc à des gamins aujourd'hui, et c'est peut-être c'est mieux. Parce que voilà, c'est alors déjà, c'est d'une connerie, mais abyssale. Et puis enfin, quel intérêt?
Genre, oui, bah,
ça fait grandir qui? Les parents, ils sont démunis. Le gamin, tu l'as traumatisé. Voilà.
C'est exactement ça. C'est que je pars du principe, à partir du moment où ce que tu exprimes n'est pas constructif, ça va blesser et ça va rien apporter. Franchement, pourquoi le faire? Et là, clairement, ma mère, elle était dépitée, elle savait pas quoi faire. Mais après, ma mère, elle lui a pas répondu. Et tu vois, ma mère, moi, je l'ai su bien après ça. Ma mère, elle me l'a jamais dit.
Ouais.
Et encore une fois, moi, après, il y avait une autre dynamique. C'est dans le sens où, bon, bah ouais, peut-être que t'es pas très bonne là-dedans, mais par contre, t'es bonne là-dedans. Et tu vois, on va peut-être essayer. On peut. Ma mère, elle m'a jamais dit, ah, qu'est-ce que je vais faire de toi? C'est catastrophique. Mais plutôt, on va trouver, t'inquiète pas, ça va aller. Mais même, comme je t'avais dit, à un moment, il parlait même du fait que j'étais même incapable de faire de poursuivre l'école et de faire ou même un CAP ou autre chose. J'avais pas les capacités pour eux, intellectuelles, à arriver à ça.
Non, mais moi, j'ai un exemple comme ça. Dans ma famille, on a fait à peu près la même chose à quelqu'un de ma famille, en disant, alors c'était pas ce niveau de violence, mais c'était, voilà, on destinait la personne à être cordonnier, je crois, comme ça. Et la personne a fini maître de conférence, tu vois.
Tu vois.
Donc, comme quoi... Enfin, vraiment, s'il y a une leçon à retirer de ça, c'est que ne doutez pas, enfin, ne remettez pas en cause les faits, mais tout ce qu'on vous dit, ça reste un avis subjectif d'une personne qui peut être totalement biaisée. Donc, tracez votre voie, enfin, parce que si vous commencez à écouter... toutes les personnes comme ça qui essaient de vous arrêter, en fait, vous ne ferez jamais rien, quoi.
Exactement. Et puis maintenant, avec... maintenant, quand je dis ça, on dirait une vieille... Mais avec toutes les possibilités que tu as de faire tes propres recherches, avec Internet, avec... Tout est plus accessible. Donc, en fait, je suis d'accord avec toi, n'hésitez pas à remettre en question ce qu'on vous dit et faire vos propres recherches et de vous dire, bah, écoute, ça, c'est ton opinion, mais laisse-moi me faire la mienne aussi.
C'est ça. Surtout à une époque, là, c'est différent vu le contexte actuel, mais Le danger actuellement, c'est que, à ma connaissance, on n'a jamais eu ça, c'est qu'on arrive à un moment où les gens remettent même en question les faits. Et là, ça devient très dangereux.
Oui.
C'est que, avant, tu pouvais t'accorder au moins sur les gens, chacun son avis, mais sur les faits, si on arrivait à te prouver par A plus B que tu avais tort, les gens étaient capables de faire machine arrière. Maintenant, tu as des gens qui.
De mauvaise
foi. De l'arrêter. Ah ouais, c'est même plus une mauvaise foi, c'est qu'ils sont perdus. C'est, tu vas leur expliquer que le ciel est bleu, tu peux l'expliquer pourquoi, et ils vont te dire non. Si j'ai envie de dire que le ciel est violet, il est violet. Enfin, c'est vraiment inquiétant.
Alors, après, moi, je pense que ça, c'est. Ça arrive, mais moi, j'évite vraiment au maximum de côtoyer, pas forcément des gens qui remettent en question ce que tu dis, hein, ou même si c'est prouvé. Mais plus, tu vois, il y a des moments où c'est ce que je te disais en off, des débats ou des combats stériles.
Ah ouais,
je refuse jamais de donner mon opinion. Si on me la demande, c'est important de valoriser mon opinion. Mais parfois, je me dis aussi, je valorise mon temps et la perte d'énergie pour quelque chose qui ne sera pas utile. Voilà, choisis tes combats.
Il faut choisir ses combats, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, tu as des gens, ils vont se battre pour t'expliquer que la Terre est plate.
Oui, voilà. Donc là, voilà, c'est, tu vois, après, je dis. Mais je pense qu'au départ, j'aurais pu me lancer, tu sais, vraiment dans des combats en me disant, oui, non, mais là, il faut vraiment que je donne mon opinion. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est le côté impulsif que j'avais et que j'ai retrouvé dans ton premier podcast avec Charlotte, où elle disait, je pensais que c'était important parce que j'étais dans la vérité. Elle a dit à un moment, si je n'écorche pas ses propos, mais c'était un peu dans le sens où elle disait, comme moi je le pensais, je l'avais perçu tel que, je me disais que c'était la seule vérité. Et tu vois, moi aussi, j'ai eu ce côté-là un peu dans mon impulsivité. Je me disais, oui, si moi je pense que c'est ça, et même si je fais mes petites recherches, bah, c'est forcément ça. Alors que j'avais peut-être survolé les choses, j'avais aussi une vision peut-être immature et très impulsive et très. Tu vois, j'allais tout de suite sur des choses et j'étais beaucoup dans le conflit, par contre. Vraiment petite, comme je te disais, j'étais calme, je pouvais rester des heures à pas bouger, mais par contre, j'étais vraiment beaucoup dans le conflit et j'étais violente.
Les faux calmes, quoi.
Oui, ouais. J'étais violente, en fait, j'étais vraiment, et je l'ai constaté, je pouvais être violente et parfois, je me disais, avec le recul, et quand tu sais, quand ça retombe, tu te dis, mais pourquoi ? Et du coup, moi, j'avais eu beaucoup de
visites. La soupape, quoi, qui explose au bout d'un moment, voilà. C'est trop. T'étais toute calme. Et là, en fait, il y a un truc qui t'a fait exploser, quoi.
C'est exactement ça, mais en débordement. Et c'est même pas au prorata de l'effet, parce que je pense que j'étais tellement tout le temps calme.
Ah ben non, c'est la goutte d'eau.
Voilà, c'est ça. Et j'emmagasinais. Et toi, tu me disais juste un peu... pas bonjour, et puis alors là, ça partait et il n'y avait pas lieu, quoi. Tu sais, il y avait des moments où c'était là en mode bah, trop pour l'instant.
Moi, je connais. Et t'as un peu le même profil que moi.
et aussi, par contre, moi, j'étais violente physique. Je pouvais... tu vois, je disais rien, mais par contre, quand on s'en prenait à moi, je pense que comme je doutais beaucoup de mes capacités, et comme je te disais, l'écrit pour moi était un problème, ma dyslexie, ma dysorthographie, donc je remettais beaucoup en doute mes capacités. Du coup, ma seule manière de répondre était peut-être par la violence, parce que c'était la chose où j'étais plus... je pense que j'étais un peu plus grande, j'essayais de compenser comme je pouvais, et puis je contrôlais pas, j'étais violente, j'étais excessive. Et puis après, je retombais en mode léthargie totale et très calme.
Et ça, la violence physique, c'est pas un truc que j'ai connu à ce point-là. Mais, okay.
C'est vrai. Non, alors, violence physique, hein, toute proportion bien gardée, mais je veux dire, je me suis déjà battue. Vraiment.
Mais c'est la période de ta vie où t'as fini en prison au Venezuela.
Arrête, les gens, ils vont y croire, c'est même pas vrai.
Non, c'est même pas vrai. J'ai pas fait de la prison pendant 10 ans. C'est même pas vrai.
On avait dit que c'était les stupéfiants. Tomber dans le cliché. Mais.
pas de cliché dans mon podcast. Ouais.
Pardon. Non, quand je disais, c'était plus des bagarres d'ado. Mais oui, je me souviens, je me bagarrais. Je pouvais, en fait, oui, c'était vraiment de l'impulsivité comme ça, où je vais Je me souviens, il y avait un garçon à l'école qui me balançait en cantine des petits pois avec sa cuillère. Et ça, ça a beaucoup choqué. C'est que bah, j'étais en train de manger et je lui ai enfoncé ma fourchette dans la main.
Il l'a encore, hein. On n'a pas réussi à la retirer.
On a dû l'amputer.
Terrible. Ouais, moi, c'était un peu pareil. Moi, je pouvais devenir très agressif, mais que dans les moments où il ne fallait pas, tu vois. Et dans les moments où ça aurait pu me servir, j'arrivais pas à déclencher mon agressivité. Et là, en fait, je devenais inoffensif, ce qui n'a aucun intérêt. Hein.
Oui. Oui, je comprends.
C'est nul.
Bah, après, effectivement. Et puis après aussi, tu grandis, tu sais, t'es préparé autrement aux choses. Mais je pense que c'était... moi, c'était ça. C'était parfois pas approprié, surtout. Là, c'était peut-être même pas approprié, c'était juste que c'était à l'excès. Tu vois, il y avait des choses qui avaient été pires et par les mêmes personnes. Et là, d'un seul coup, bah, tout explosait. Et du coup, ouais. Bah, en fait, je me faisais en plus gronder parce que les gens, souvent les professeurs ou des choses comme ça disaient oui, mais...
Bah, et tu m'étonnes, tu mettais des fourchettes dans les mains.
Je l'ai fait qu'une fois. je l'ai fait qu'une fois. Et c'était après, c'était ça, voilà, des gifles, des choses comme ça où j'allais me bagarrer. Mais ça arrivait surtout pendant mon adolescence et mon enfance. Hein. Ça, depuis, je pense que là, si mon mari il écoute le podcast, il va me dire « c'est pas toi, ça ». Et ma soeur, elle serait morte de rire en disant bah, « si, c'était elle ».
Inès, barbare de niveau 42, bonjour.
Non, après, comme tu dis, j'ai fait de la prison, donc c'est passé.
Ouais, je vois ça.
J'allais dire « vraiment, je n'ai pas fait de prison ». Que les gens ne pensent pas que j'en ai fait.
Tu sais, c'est moi qui fais le montage, hein, donc j'ai juste enlevé le pas de prison et c'est réglé. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, comment faire toute une carrière.
C'est ça. Et du coup, j'essaie de raccorder les wagons. Je repensais. On va faire une grande ellipse dans le temps, mais oui. C'est pas grave. On reviendra sur les points qu'on n'a pas abordés. De toute façon, je pense que les personnes TDAH arriveront à nous suivre, j'espère. Tu me disais quand on a préparé l'émission que ça m'a fait plaisir. Enfin, ça m'a interpellé. Que t'avais pris conscience de ton TDAH en écoutant le podcast. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment s'est passée la révélation de ça pour toi?
Bien sûr. Après ça, je vais le dire, et puis après, toi, tu vois si ça te paraît pertinent ou pas de le mettre en montage, mais le couper ou pas. Mais en fait, c'est parti du fait que... Comme je te l'avais expliqué, j'ai travaillé avec une personne et elle travaillait avec des personnes qui étaient au potentiel intellectuel. Et du coup, elle m'avait dit, au bout d'un certain temps, ta manière de penser, elle est assez en arborescence. Donc, moi, je ne connais pas du tout. Donc, elle m'explique. Et là, par contre, vraiment, moi, je pensais que tout le monde pensait comme ça. Tu sais que c'était tout le temps ce que je te dis. Pour moi, tout le monde avait tout le temps des idées. Le cerveau off, ça existait pour personne. Et du coup, elle me dit ça et elle me dit, voilà, moi, je pense que tu as quand même un profil assez HPI et au potentiel intellectuel. Et du coup, bah, là, quand tu connais mon palmarès scolaire, tu te dis, bon, bah, oui, OK. Et je le mets de côté. Et puis après, on me le redit dans un autre contexte, une personne où c'est son métier diagnostiquer... les personnes qui le sont, et du coup elle fait des bilans et elle me dit tiens, je trouve que t'as un peu, tu sais, des similitudes avec le HPI aussi avec les personnes Asperger. Donc elle me dit tu sais ce que c'est, je dis oui je connais, et je lui dis alors elle me dit non mais faut pas mal le prendre, je dis pas du tout en fait parce que quand tu...
Je vais te mettre ma fourchette dans la main. Mais
j'aurais jamais dû dire ça, ça va me suivre toute ma vie.
Ouais, tout l'épisode au moins,
Alors je te parle pas du stylo plume que j'ai enfoncé.
Tu fais bien.
Mais du coup, et ben quand elle me dit et rappelle-toi, je t'ai dit c'est passé à 16 ans, j'étais plus du tout violente, d'accord. Mais du coup, et ben quand elle m'a dit ça, je dis non mais je connais un petit peu. Effectivement, je connaissais parce que dans mon entourage, je connais une personne qui est au potentiel intellectuel, une amie, une ma plus proche amie. Et du coup, bah, je connais très bien les caractéristiques. Donc après, moi, je vais pas faire un faux diagnostic sur certaines choses sur les gens. Donc je me suis vraiment dit, moi, je pense pas avoir ça. Mais bon, je commençais à regarder, j'ai écouté des podcasts sur les Asperger et sur les hauts potentiels, parce que je ne connaissais pas le TDAH, parce que j'avais cette notion qu'on a dit au départ de la société, du gamin super turbulent, qui crie, qui court, qui est inépuisable. Et on revient à part le coup de la fourchette où j'étais très calme. Tu vois, avec des petits accès de violence, mais comme disait un jour le professeur a dit à ma mère quand ça s'est passé, alors oui, elle n'aurait pas dû faire ça pour le stylo plume, mais elle a été poussée à bout. Donc tu vois, ma mère, elle te dirait, enfin, elle a été extrême, mais elle a été poussée à bout. Donc tu vois, c'était jamais, ah, d'un seul coup, j'arrive et je plante quelqu'un. Je sais pas si tu comprends, ouais. T'arrives à suivre.
Ah bah oui, parce que là, c'est une autre, là, c'est,
voilà, c'est autre
oui,
chose, là, c'est quoi. Inquiétant. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi, du coup, comme j'ai cette vision juste de l'hyperactif sans savoir ce que c'est un TDA, et du coup, j'écoute un podcast d'une personne qui fait plutôt sur les profils atypiques. Et du coup, j'entends une partie Asperger. Je vois, et là, je me dis, je suis pas concernée par ça. Je vois bien que, oui, si tu fais attention au TDAH, au potentiel intellectuel et au TSA, tu vois qu'il y a quand même des spectres qui sont assez t'as des similitudes, et c'est pas pour rien que c'est aussi souvent des comorbidités, entre autres avec les 10 et autres. Et du coup, bah, je me dis, bon, oui, il y a des petits trucs, mais c'est non, je pense pas. HPI, pareil, oui, il y a des petits trucs, mais non, je pense pas. Et là, elle parle d'un petit truc, mais c'est le podcast, il dure vraiment peut-être 6 minutes, et elle met en exemple une personne qui est TDAH adulte. Et là, je me suis dit, ah, ça a l'air intéressant, mais comme c'était survolé, j'ai tapé podcast TDAH et je tombe sur le tien. Et ce que je t'ai dit quand je t'ai parlé, ce que j'aimais bien, c'est que moi, je pense que comme tous les TDA et TDAH, il faut que ce soit dynamique. Sinon, ça peut durer 3 heures, mais si c'est dynamique, entraînant, le rythme est bon, bah, ça te tient, et sinon ça peut te lâcher, mais au bout de 30 secondes, et je peux pas, ouais, je peux pas, ouais, te suivre. Et en fait, quand je t'écoute du coup parler, je me pose, tiens, c'est intéressant. Et du coup, d'une, j'arrive à accrocher, parce que t'en as quand même beaucoup, des podcasts sur le TDA. Alors en France, pas beaucoup, mais t'en as aussi au Canada, tu sais, qui sont Québec, c'est tout ça, la partie francophone, sans parler la partie anglophone, mais partie francophone. Mais du coup, je t'ai trouvé, j'aimais bien comment tu présentais le truc, et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. Et j'ai écouté, du coup, celui de Charlotte et celui d'Arlette. Et là, je me suis dit, bon, bah, ouais, quand même. Là, il y a un truc, c'est... Bah là, en fait, il parle de moi. Antoine, il n'est pas au courant, mais il parle de moi. c'est là où...
Ça fait ça, hein, souvent, la première fois où tu lis, tu te renseignes et tout, il y a ce côté mise en abîme, tu vois, en mode « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Genre, ouais, t'as l'impression de lire un paragraphe sur toi, alors que t'as pas l'habitude de voir quelque chose qui te ressemble. Et là, là tu tombes dans un gouffre où tu fais « Ah ouais !» Okay.
C'est ça, c'est qu'en fait, même si je pense que tu réunis toutes les personnes que t'as avec qui tu as fait des podcasts, je pense qu'on est tous différents. Tu vois, même toi, là, et moi, on a des similitudes sur des choses et des points de vue qui sont assez similaires. Mais forcément, comme je disais, le parcours, la personnalité,
mais, la culture. Ouais.
Voilà, c'est ça, la culture. Mais par contre, là, c'était la première fois où je me suis dit, c'est ça. C'est, en fait, je crois que c'est ça. Et pour te dire, c'est quand j'ai... Du coup, j'ai contacté tout de suite une neuropsy. Et du coup, je prends rendez-vous en lui disant, voilà, je cherche... Parce qu'en plus, vous le avez mis en lumière avec tes deux premiers podcasts. Bon, à part Arlette, parce qu'elle est la su jeune. Mais Charlotte, tu vois, et toi et d'autres personnes, la complexité d'avoir un diagnostic quand tu es adulte, que ce n'est pas forcément très facile en France et tout ça. Donc moi, je cherchais, et je n'habite pas à Paris, je cherchais une personne spécialisée dans l'adulte. Et tu vois, je ne voulais pas avoir quelqu'un qui me dise « Ah, ça n'existe pas », parce que malheureusement, tu as encore des personnes qui disent que ça n'existe pas.
Des gens qui sont dans le déni de l'existence du trouble, ouais, bien sûr.
Bah, bien sûr, et comme de troubles, effectivement, du coup, ce que je trouve bien...
Ce qui est grave d'ailleurs, ce qui est, je sais pas, petit aparté, mais je sais pas comment ça se passe au niveau de l'ordre des médecins et tout, mais je serais curieux de savoir à quel point t'as le droit d'être dans le déni sur, un trouble médical avéré comme le TDAH, tu vois.
Je trouve que c'est... ça m'inquiète, mais après, je pense que... vraiment, c'est ce que j'ai dit un jour, du coup, au psychiatre qui a fait mon diagnostic. Je lui ai parlé librement, lui disant, voilà, moi, je comprends pas, après, avec le parcours et tout ça, qu'à aucun moment ça ait pu être révélé, et surtout que je n'en ai jamais entendu parler. Alors, et pourtant, tu vois, autant sur d'autres, comme je te dis, moi, les autistes Asperger, le trouble du spectre autistique, les hauts potentiels intellectuels, je savais, je connaissais pas que les clichés. Vraiment, le TDA et TDAH, je l'ai appris par, tu vois, quand j'écoute ton podcast, c'est là où vraiment j'ai eu vraiment les connaissances, mais vraiment une révélation, et surtout j'ai appris. Et là, je me dis, c'est quand même grave qu'il y ait une méconnaissance à ce sujet-là, il y a une désinformation. Et comme tu dis aussi, il y a une partie du corps médical qui ne le reconnaît pas. Alors, c'est pas une partie, c'est minime maintenant, mais tu vois, il y a encore quand même, je pense, on est très en retard par rapport à ça.
Ouais, non, mais bien sûr, c'est aussi pour ça, ce qui m'a motivé à faire ce projet, tu vois, parce que quand moi, je me suis renseigné, et après, quand je me suis fait diagnostiquer, j'étais effaré de me dire que entre mon enfance où les gens qui avaient une hyperactivité motrice, voilà, on appelait ça des hyperactifs et c'était tout. Mm-hmm. Et moi, à l'âge adulte qui apprend ça, en fait, il n'y a rien. J'ai jamais entendu parler de ça avant. Et je me dis, mais attends, comment c'est possible?
Bah, c'est pour ça, en fait, que... alors là, du coup, c'est moi qui change le rôle de ton podcast. Je peux te poser la question, à quel âge tu as été diagnostiqué?
Ouais, bien sûr. Non, moi, c'était il y a 4 ans, du coup. Donc, j'avais quasiment 35 ans.
D'accord. Et du coup, tu connaissais avant... c'est toi qui es venu avec déjà pas mal de connaissances ou non, ça a été une révélation?
Moi, c'était vraiment... je suis tombé... c'est arrivé pendant une période de ma vie où juste j'avais tout s'est condensé, tout s'aggroupé à un moment où au niveau boulot ça allait pas et j'avais des grosses difficultés attentionnelles et à un moment donné on me l'a fait remarquer que en fait je décrochais plus qu'à l'accoutumée et que je tenais pas en place et j'étais dans un boulot où j'enchaînais parfois des réunions de 2 heures et en fait j'y arrivais plus quoi. Enfin tu vois genre ouais vraiment à bout nerveusement et je faisais tout pour tu sais je sortais mais en mode énervé quoi, fallait pas me parler. Je fumais à l'époque en plus tu vois pour calmer cette excitation et on me l'a fait remarquer. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, mais vraiment le truc le plus bateau, c'est-à-dire impulsivité, problème d'attention et décroche des conversations. Et là, je tombe dessus et en fait, ouais, c'est un gouffre quoi. Enfin, je tape des nuits à regarder, à lire dessus et je suis effaré quoi.
D'accord. Et là, c'est le fameux make sense.
Ouais, mais attends, qu'est-ce que c'est? Genre, tu remets en question aussi, t'en parles à des gens qui comprennent pas, tu compares, tu fais le test pour toi, tu le fais faire à des gens qui te connaissent bien, et tu le fais faire pour eux aussi, et tu compares les résultats, et tu fais, mais attends...
Alors,
okay, et t'es toujours dans le doute, tu vois, tu essaies de voir en mode, est-ce que c'est pas un biais de... ou c'est moi qui me projette là-dedans, alors qu'en fait, si ça se trouve, il n'y a rien, quoi.
Alors, tu vois, ça me fait vraiment plaisir que tu l'expliques comme ça, que tu l'exprimes comme ça, parce que c'était ma perception déjà quand j'ai écouté ton podcast. Effectivement, je me suis dit, oui, il parle de moi. Enfin, il parle de moi, non, mais je veux dire, il y a beaucoup de critères qui sont très similaires à moi. Après, passé, expérience et profil qui sont différents. Mais... Et là, je me suis dit, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans l'effet Barnum, tu vois?
Voilà, c'est ça. C'est l'effet Barnum que je cherchais. Ouais.
Ah, et du coup, tu vois, je voulais... Et du coup, c'est là où, tu sais, avec... Après, je ne vais pas généraliser les TDAH, mais plutôt moi, je vais plus parler de moi pour ne pas rentrer dans une généralité, mais moi, mon impulsivité, et j'ai tendance à faire une boulimie d'informations et tu vois, comme tu dis, lire beaucoup, m'informer sur un sujet, être hyper focusée, on va dire vraiment en boulimie d'un sujet. Et quand je t'ai écouté, moi, je me suis dit, j'ai tout écouté, je me suis renseignée. Alors après, j'ai trouvé de tout, vraiment, parce qu'il faut aussi dire, hein, là, c'est, on revient du coup, il y a 30 minutes de notre discussion, c'est bien aussi de prendre, analyser et faire tes recherches et pas tout prendre, pas tout accepter, pas tout, tu vois, parce qu'il y a un peu de tout aussi sur le TDAH, comme pour tout, il y a un peu de tout sur tout. Et du coup, c'est pour ça que souvent, je revenais à ton podcast comme une référence, parce que je trouvais qu'il y avait, c'était des pains, on ne l'enjolivait pas, mais on allait vraiment dépeindre les troubles, les caractéristiques, en essayant d'aussi mettre en lumière ce qui pouvait être bien. J'aimais bien les recommandations de ça, parce que je voyais des choses tellement contradictoire que parfois ça m'effraie. Donc quand je voyais des choses, je me disais, ah oui, alors effectivement, lui, quand je l'entends parler ou quand j'entends le podcast, je veux pas être dans l'effet Barnum et me dire, oui, c'est moi qui vais, c'est ça, et tu sais, et que ça ne soit pas le cas. Et d'ailleurs, quand j'ai eu du coup le premier rendez-vous chez la neuropsy, c'est te dire à quel point, c'est que je me suis dit, j'espère que ça soit ça, parce que du coup, je me suis dit, si c'est ça, je peux trouver des solutions. Ouais. Mais si ça ne l'est pas, en gros, je suis désolée de le dire comme ça, mais putain, qu'est-ce que c'est, quoi?
Écoute, Inès, on arrive au moment de l'émission où l'invité précédent te pose une question. Et cet invité, c'était Alex. On l'écoute maintenant.
Est-ce que vous voyez le TDAH comme un handicap? Et si oui, avez-vous eu du mal à l'accepter en tant que tel?
Alors, je le vois pas comme un handicap, mais effectivement, c'est très contraignant. Excuse-moi, j'ai oublié la deuxième question.
C'est marrant, j'ai toujours, dans tous les épisodes, quelqu'un qui me fait... Attends, c'était quoi, Jeff?
Je suis désolée. Toujours.
Non, ils ne sont pas bien un endroit où tu n'as pas été désolé, c'est ici. La question, c'est si tu le considères comme un handicap, est-ce que tu as eu du mal à l'accepter en tant que tel?
D'accord. Alors, effectivement, non, je ne le considère pas comme un handicap. C'est très contraignant, mais après, je pense que... Moi, je veux le voir comme un côté positif, dans le sens, enfin, pas comme un côté positif, mais le voir avec un regard positif et me dire oui, bon, bah, c'est comme ça, de toute façon, t'as pas le choix. Donc, tu dois faire avec. Et après, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre en place des choses, essayer de trouver des astuces. Et de toute façon, encore une fois, c'est comme ça. Enfin, on ne va pas arrêter demain de l'être. Donc, c'est juste de l'accepter. Et si on n'arrive pas par un biais à avoir quelque chose, essayer de l'avoir par un autre biais et continuer à croire en soi. Après, je n'ai pas envie d'être en mode life motive ou quelque chose comme ça, mais vraiment, je me dis que c'est important de se dire que oui, effectivement, on a ce problème-là, mais il faut essayer de, tant qu'on peut et quand c'est possible, y croire. Moi, je dis toujours, celui qui persévère devient vainqueur. Et pour preuve, encore une fois, moi, on a dit que j'étais... On a dit que j'étais déficiente mentale. On m'a déjà dit oui, de toute façon, si tu fais des fautes d'orthographe, c'est parce que tu lis pas. Et PS, à l'époque, j'avais pas les livres audio. On m'a dit tellement de choses. Et voilà, moi, j'ai monté mon organisme de formation dans les cours de langue. J'ai appris des langues. J'ai plus peur d'écrire. Bien sûr que, comme tout le monde, c'est compliqué. Oui, vous faites des fautes d'orthographe, vous avez un problème ou que sais-je, c'est compliqué. Faut pas minimiser le problème, faut juste se dire c'est compliqué, effectivement. Maintenant, c'est où on s'apitoie sur notre sort et on se dit que c'est fichu et voilà. Ou on se dit, bon, bah, effectivement, c'est compliqué. J'ai besoin peut-être un petit instant de me plaindre et de me dire que c'est chiant. Mais à un moment, bah, va falloir que je rebondisse et que je me dise, bah, j'ai pas le choix. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais avec et quels sont les super bons côtés? Quel est ce super pouvoir que ça peut aussi me donner pour aller de l'avant?
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je n'aurais pas mieux dit. Dans ces moments-là, c'est pour ça c'est cool de se plaindre parfois. T'as raison, on a besoin de soupapes pour dire parfois là aujourd'hui c'est chiant, mais faut faire avec, on n'a pas le choix. Et genre des moments où tu te dis il y a des personnes qui sont tellement plus à peindre, tu vois, qu'on a un handicap physique, tu vois, et quand tu vois ce que les mecs accomplissent, tu te dis putain, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, tu vois, c'est un modèle aussi de se dire les mecs, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Voilà, c'est une forme de stoïcisme de dire bon bah, je peux pas le changer. Je suis TDAH, même avec une médication adaptée, je resterai TDAH. On n'en guérit pas, donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait.
Oui, exactement. C'est bah de toute façon, c'est là.
Mais ça, c'est du développement personnel. En fait.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de tomber sur. Ça va être horrible ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de tomber dans ce bullshit-là, et je suis désolée de le dire comme ça. Et...
Ah, ouais, non, mais c'est ça. Alors, il y a beaucoup de bullshit, t'as raison.
Mais je sais qu'il y en est, bien trucs, sûr qu'il y a des trucs top. Ça, je suis d'accord.
Mais il y a des trucs, c'est de la philosophie. C'est exactement. De la, c'est de la réflexion de vie, c'est de dire. C'est, pour moi, c'est du bon sens de se dire que ça, une vie sera toujours plus vécue à fond, en fait, si tu fais avec les cartes que tu as en main, plutôt que de, si tu passes ton temps à te plaindre et imaginer ce que ça aurait été sans, ben,
oui.
Tu tireras moins loin.
C'est ça, et oui, c'est vrai que c'est important de dire, effectivement, t'as le droit de te plaindre à des moments. Faut pas non plus être un robot et tout mettre de côté.
Non.
Et comme, tu sais, le there, ça va aller. On a besoin de ce moment-là et t'as aussi besoin, et c'est bien d'avoir des personnes qui peuvent te dire, bon, bah, ok, je t'écoute et te plaindre un petit moment, et qui savent aussi à un moment te dire, hey, par contre, là, bah, c'est bon.
Ouais, tu comprends
ce que je veux dire? J'ai été ton oreille,
moi,
mais là,
je comprends.
Fair enough.
Moi, je comprends. les personnes qui m'ont aidé dans la vie à un moment où ça allait pas forcément, c'est les personnes qui ont su m'écouter, tu vas me dire je comprends, et les personnes qui sont là en mode ouais tu radotes en fait, donc soit tu fais quelque chose pour changer ta situation, soit tu radotes, mais tu vas radoter tout seul dans ton coin, quoi.
Exactement. Et puis exactement, et ça, mais je pense que c'est aussi ce qui t'a aidé à éviter de creuser toi-même ton trou.
Ouais, c'est parce que en fait tu te rends pas compte que t'es en boucle, et tu surtout dans nos sociétés, je trouve que c'est facile de tomber dans le côté ambiant où chacun passe son temps à râler, on s'écoute râler, mais c'est pas une solution, quoi.
C'est vrai. Et après, bon, je pense que c'est bien de... Je sais que c'est encore un état d'esprit, hein, et je dis pas, mais essaie de. En fait, moi là, si j'ai envie de dire à la personne qui m'écoute, peu importe, c'est toi aussi. On a tous quelque chose, tu vois. Et peut-être que les gens vont dire oui, mais y en a, ils ont des facilités. On a tous aussi quelque chose. On remet dans le contexte. Hein. On a un TDAH, mais il y a pas que ça. J'ai eu un TDAH. Moi, j'ai été déscolarisée. À l'âge de 16 ans, parce que j'ai redoublé ma quatrième. Et là, du coup, c'était plus possible. Donc, j'ai arrêté l'école en quatrième. Moi, je n'ai pas mon bac. Donc, quand j'écoute ce que je te disais la dernière fois, c'est moi, mon CV, il n'a rien de reluisant. Mais essaie aussi de prendre toutes les mains qu'on tend quand elles sont... alors, pas tout, mais il y a des gens qui sont vrais. Oui, pas tout. Je sentais que tu vas encore me parler de la fourchette, toi.
J'ai rien dit, c'est une mauvaise foi.
Mais en fait, tu vois, il y a des gens qui tendent vraiment la main, et moi, parfois, il y a des gens qui n'osent pas, et je leur dis, prends la main que je te tends, parce que je le fais avec sincérité et bienveillance si je te la tends. Et on a tous quelqu'un qui va te l'attendre comme ça. Il y a certainement beaucoup de mains qui ne sont pas à prendre, mais il y en a. Et donc, tu te dis, ah, j'ose pas. Mais moi, je me charge toujours de dire, je dis souvent, tu sais, la vie, elle va se charger de t'en mettre plein la gueule. Donc, si tu as quelqu'un qui te tend la main, bah, n'hésite pas à la prendre si elle est bienveillante. Et si tu le sais, tu vois, après, encore une fois, s'il y a tous les critères. Et parce que, non, mais j'ai pas osé. Non, mais parfois, prends aussi un petit peu parce que t'inquiète pas. Hein. Prends un petit peu ce qu'on donne parce qu'on chargera aussi de t'en mettre plein la gueule. Donc,
ouais, et puis, tu vois, ce que tu dis sur ton parcours, c'est ce qui rend ton parcours encore plus valorisant qu'une personne neurotypique qui n'aurait pas eu connu de difficultés. C'est que tu as atteint ça, qui est déjà super, tu vois. Mais quand tu le mets en perspective avec les difficultés, la dyslexie et tout, ça donne encore plus une autre valeur au parcours.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Et du coup, bah, je ne dis pas... Hein. Et j'ai eu très longtemps, et c'est pour ça que je comprends, moi j'ai eu très longtemps honte, bah parce que à un certain âge, tu côtoies des gens qui sont en pleines études, tu sais, elles sont en plein dans leurs études, et toi, bah toi, t'as pas ton bac. Moi, quand on me dit, ah, tu sais, dans l'amphi, on va remettre dans le contexte. Moi, j'ai jamais été dans un amphi, sauf bah, quand j'ai eu après adulte des situations qui m'ont mis dedans. Moi, je sais pas ce que c'est de passer un oral. Moi, il y a plein de choses que moi, je connais pas. Et après, je me suis chargée aussi d'apprendre. N'hésite pas à apprendre. C'est pas pour autant que je n'ai pas appris de manière autodidacte des choses. Et ça, il n'y a pas besoin de... t'as pas besoin d'être... comment dire? T'as pas besoin d'énormément de clés. Tu peux chercher. Il y a Google, il y a YouTube, t'as les livres, t'as plein de choses. Intéresse-toi à tout. Et forcément... Et encore une fois, on a tous un super pouvoir et valorise le super pouvoir que tu as et fais-en une force. Parce que forcément, si tu te bases que sur toutes les choses négatives qui te traînent, bah non, t'avances pas.
Amen. D'accord avec toi. Et toi, Inès, c'est quoi ta question pour l'invité suivant?
Ah, elle fait 8 lignes. Non, c'est pas vrai.
Il y en a qu'un.
Alors moi, ce serait comment fais-tu face à l'image et à la méconnaissance du TDAH, de ton entourage et de la société?
Je pense que c'est le bon moment si jamais il y a une roco que t'as pas eu le temps de dire pendant l'épisode et que tu voudrais dire maintenant. Sinon, si t'as dit une roco, bah, tant pis, elle sera perdue dans le fond de l'épisode et ça va la remettre.
Non, en reco, alors, tiens, si une reco, c'est si vous parlez anglais, la chaîne YouTube Healthy Gamer, c'est un psychiatre qui parle vraiment du TDAH. Donc, il a vraiment, en plus, c'est pas n'importe quoi, c'est sérieux. C'est sérieux et en plus, il a plein d'invités et il parle de plein d'aspects et d'autres choses, l'anxiété et d'autres troubles. Et je trouve intéressant d'avoir son point de vue. Je le trouve très intéressant et je trouve sa chaîne YouTube dynamique. Et c'est d'ailleurs... mon psychiatre qui me l'a conseillé et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment j'ai beaucoup accroché.
Et bah, tu vois, avant que tu m'en parles, je connaissais pas, donc j'irai écouter ça avec une grande attention.
Et après je dirais trouve aussi une passion externe. Toi, t'en avais conseillé des Lego, des trucs comme ça. Trouve une passion, même si elle dure pas toute ta vie, hein, mais te permet d'être un exutoire. Par exemple, moi, je t'ai donné tout à l'heure, tu m'as dit, ah, donne-moi un mot, je t'ai dit Sketchnote. C'est parce qu'en ce moment, c'est mon exutoire, ça m'intéresse, j'aime bien le... étant donné que j'aime bien pas dessiner, mais je veux dire, j'apprends plus facilement, j'ai une mémoire visuelle. Donc, pour moi, c'est un principe intéressant de dessiner des détails et de faire des choses en dessin pour faire des réunions, des choses comme ça, l'apprentissage avec ton équipe. Et je trouve ça très intéressant.
Je connais pas le principe de sketch. Enfin, pour moi, c'est
facilitation graphique. Ah, aussi, tu sais, par exemple, ah, tu fais des dessins au lieu de faire quand t'écris tout ça, bah, tu as une ampoule, une idée, quoi, des trucs comme ça. En fait, Bah, je te mettrai des liens intéressants sur des choses.
Ah oui, non. Ok, ouais, je vois. Ah, bah, c'est mes carnets.
En sont pleins.
Mais,
ouais, et c'est bien, hein, tu trouves pas? C'est un peu, ça détend, ça te permet de te laisser un peu, je dis pas libre cours à tes pensées, mais je trouve que c'est pas mal, c'est intéressant. Et là, on va dire que c'est mon petit truc, mon focus du moment.
Ah, c'est cool. Hein, je connaissais. Après, moi, j'ai la flemme de le mettre au propre et tout. Moi, c'est plus, tu sais, dans les marges, les petits dessins et
ah,
tout.
Ah non.
Pas forcément. Moi, c'était ça.
Alors, sketch note TDAH. Moi non plus, je le mets pas au propre. C'est juste que ça me permet dans mes notes. Ah, parfois, je suis d'accord avec toi. J'ai une ampoule là qui part comme ça, un truc comme ça. Je n'ai pas dit que je le mettais comme. Il y en a, c'est vraiment beau ce qu'ils font. C'est vraiment.
Ah ouais.
Non, là, tu as surestimé mes capacités.
Ah ouais, non, mais moi je, tu sais, les joueurs, ils font ça, je fais, ah, moi, c'est dans l'idée, ouais, mais moi, c'est pas aussi propre, c'est pas aussi, tu vois, il y a une harmonie du truc, non, moi, c'est en mode, bah, moi, déjà, je ne peux, en fait, la vérité, c'est que je ne peux pas prendre des notes s'il n'y a pas des éléments graphiques comme ça, quoi.
Oui, bah, voilà, c'est ça, mais après, sans aller vraiment à l'esthétisme parfait, juste, déjà, trouve ton truc, après, je te disais, bah, le livre La 25e heure, j'ai trouvé intéressant sur certains points.
Ok, bah écoute, c'est noté, non, ouais. Sketchnote et livre de la 25e heure.
Et Healthy Gamer.
Je vois ça, ouais, Healthy Gamer. Non, mais c'est marrant sur les notes, ça me fait penser que j'ai vu un commentaire de TDAH il y a pas longtemps sur Reddit, quelqu'un qui disait « Idée de business, numéro 342, venez, on fait un site d'échange de matériel de TDAH, en fait, quand les gens ont une lubie qu'ils ont acheté pour 200 € de matos et que ça a duré 2 semaines. Comme ça, en fait, on s'échange...
nos matériels.
Personne qui a... Ouais, voilà.
Vraiment. On fait du troc.
Ah putain, mais je pense que moi, clairement, j'aurais des trucs comme ça, parce que à chaque fois, quand je me lance dans un truc, je m'y lance vraiment, j'achète du matos, et après, je me dis, non, en fait, je crois que je vais arrêter. Mais ça marche ouais, comme idée de business.
Effectivement, je pense que c'est notre côté après impulsif aussi. Tu sais, tu le veux tout de suite, et tu le veux tout à la perfection, et puis après, tu vas à fond, et hop, c'est passé.
Et la perfection, ça coûte cher, tu veux du bon matos, et voilà. Non, mais je connais. Bah écoute, dans cette même idée, parce que alors moi j'espère que c'est pas une lubie qui va pas rester qu'une semaine, en recommandation en fait pour un peu calmer les pensées intrusives et tout, moi ce que je fais en ce moment c'est une activité qui me donne un peu, qui améliore ma patience et qui me permet de déconnecter, je fais des travaux manuels, c'est un grand mot, mais ouais, un peu de bricolage, un peu travail du bois et tout, petit à petit, me dire, tiens, est-ce que j'arriverai à faire ce truc, cet objet dont j'ai besoin en me démerdant tout seul, et bah, franchement, ça fait du bien de revenir à un truc un peu manuel, et de mettre le cerveau de côté un petit peu.
Ah, c'est intéressant le côté création. En gros, tu crées, c'est quelque chose que tu produis de tes mains.
Ouais, alors il y a ça. Et il y a le côté aussi conceptualisation, c'est-à-dire qu'il y a des trucs où... Toi, tu parlais de sketch note. Moi, je vais te parler de SketchUp, tu vois. C'est un logiciel de modélisation 3D. Et du coup, je m'y suis mis pareil en mode, si je dois créer un truc de A à Z, tu vois, je vais essayer de le réfléchir en 2D, après je vais le mettre sur ce logiciel en 3D.
Oh, wow.
De voir un peu, ok, comment ça marcherait. Comme ça, tu visualises le truc d'un autre angle et tu fais, ok, j'aurais besoin de ça. Ça va pas marcher. Ok, je l'aurais visualisé. Je pensais que ça marchait en 2D et en fait, ça marche pas. Et après, tu vas faire, ok, j'ai besoin de ça. Et je trouve que c'est un bon truc pour calmer l'esprit un peu et pour décomposer en sous-étapes.
D'accord. Bah, c'est intéressant, ça, je trouve.
Bah, franchement, moi, en tout cas, ça me fait du bien pour vider la tête, donc j'espère que ça aidera d'autres personnes. Et alors sinon, alors vraiment là pour le coup la petite reco, parce que je vois beaucoup de gens faire la promotion de ça, parler de ça et tout. Est-ce que toi t'as des t'as des trucs qu'on appelle des fidget toys, des trucs pour triturer dans les mains, comme on n'arrive pas à faire un seul truc à la fois. Est-ce que t'as ça toi?
Non. Et ça ne... Non, j'ai déjà vu aussi. J'en ai vu passer pas mal sur les réseaux sociaux. J'en ai pas du tout. Et la seule chose que j'avoue que je fais quand je suis dans des réunions où pour X ou Y raison, j'ai pas réussi à m'en extirper, du coup, je sais pas comment t'expliquer, mais je mets mon pouce sur tous mes doigts. Enfin, un par un, c'est très compliqué ce que je vais dire et du coup, ça va pas être représentatif, mais je colle mes doigts, tu vois, de chaque main, non, tout doucement. Je sais pas si tu vois.
J'ai été obligée de le faire, là, pour mon compte, mais...
Et oui. Du coup, je le fais tout doucement et le fait de me concentrer, je le fais sur les deux mains et ça me permet, et je le fais très souvent dans les réunions, donc je le mets sous la table pour pas déconcentrer les autres ou me prendre des réflexions. Et du coup, tu vois, je me concentre vraiment sur le fait de mon pouce va toucher chacun des doigts. Et ça me calme et ça me permet de rester un petit peu plus absorbée par cette activité-là, parce que je sais que de toute façon, quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, je serai déconnectée de la réunion.
Ouais, je comprends. Bah sur ça, moi, franchement, j'ai toujours eu un petit truc moteur et tout. Et quand je vois des objets sur Internet, des gens qui font la promotion, c'est délirant. Moi, le truc que je fais, c'est tout bête, je vois un mousqueton d'escalade.
Ouais.
Ça fait exactement le taf d'un fidget toy, mais un fidget toy, t'envoies à 50 euros. Tu fais exactement le même taf. T'as plusieurs interactions. Ça peut apaiser au niveau du bruit, des sensations. Mais ça coûte juste 5 fois moins cher. Donc, allez-y.
Oui.
Si ça peut vous faire du bien et calmer l'activité motrice. Franchement, enfin moi c'est mon truc, mais si vous avez un fidget toy que vous avez, ça peut être n'importe quoi, mais j'avoue qu'au niveau des sensations, ça marche plutôt pas mal.
Ah, c'est cool. À analyser quoi, du coup, à essayer.
Bon Inès, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'a pas mentionné? Est-ce que tu voulais préciser un autre point? De toute façon, t'as les clés. Hein. Fais comme chez toi.
Je te remercie de m'avoir fait participer. Je trouve ça intéressant. Je connaissais pas du tout. Et vraiment, hein, parce que du coup, en plus, c'est avec ton podcast que j'ai découvert mon TDAH. Donc, ça a quand même un petit côté où tu vois, tu te dis quand même que ça fonctionne ton podcast et que c'est utile à des personnes. Et je te remercie pour ça.
Ça me touche énormément. Je suis toujours gêné, je sais jamais comment réagir face à ça, mais merci beaucoup.
Et après, mea culpa pour la. Les digressions, pour ce podcast qui était aussi désordonné que ma tête.
Bah t'excuses pas. En vrai, il y a bien un endroit où t'as pas à t'excuser, on s'excuse assez dans le monde extérieur. S'il y a bien un endroit là où on n'a pas à s'excuser de ça, c'est ici. Donc t'inquiète, moi si le podcast, l'épisode, il est à ton image, c'est le principal.
Ah bah là, clairement, hein.
Bon bah c'est cool, merci Inès en tout cas d'être venu, d'avoir partagé ton expérience et puis j'espère à une prochaine fois et qu'on continuera, j'aimerais bien qu'on donne un peu un suivi des personnes qui sont intervenues dans le podcast, donc voilà, en tout cas c'était un plaisir de te recevoir ici.
Merci beaucoup, merci à toi vraiment.
J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'en profite juste pour vous signaler que j'ai également rajouté une partie abonnement payante dans Spotify. Si jamais vous voulez soutenir le projet par cette forme plutôt que sur Tipeee, il y aura des extraits, des parties bonus, voilà, plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sinon, le site chacunsontdh.fr est toujours disponible avec son guide, son manuel du TDAH. À très vite.